Radio01.net vous présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission portera sur la série des Rhythm Tengoku sur Game Boy Advance, Nintendo DS et Nintendo Wii, et plus particulièrement sur le dernier épisode de la série, Beat the Beat Rhythm Paradise. Il sera notamment comparé à la saga WarioWare.
Première partie, définition et problématique.
Il est un genre de jeu en particulier qui défie continuellement le sens commun lorsqu'on voit leurs spécialistes s'adonner à cette passion. Les rhythm games ou jeux de rythme. Dans cette catégorie, l'on peut inclure nombre de titres fameux. Beatmania, Dance Dance Revolution, Elite Beat Agents et, bien évidemment, la série des rythmes Tengoku, dont seul le dernier épisode en date sur Wii, Beat the Beat Rhythm Paradise, a été plébiscité par le grand public, du moins dans nos contrées. Rappelons effectivement que le premier épisode sur Game Boy Advance n'a jamais été localisé et que le deuxième épisode sur Nintendo DS, outre le fait d'avoir été passé sous silence lors de sa sortie, souffrait d'approximations de jouabilité liées au stylet et à l'écran tactile. J'ai été fasciné par Beat the Beat, moi qui ne connaissais que de très loin le tout premier rythme Tengoku que l'on nous présente, de l'aveu des spécialistes, comme le meilleur de la série. Bien entendu, son univers sucré et coloré ne peut qu'attirer l'œil et l'oreille. Et la fantaisie des situations rencontrées ne peut que plaire. Mais c'est encore autre chose qui m'a frappé. J'ai été surpris de voir que dans l'ensemble du jeu, l'on n'utilisera guère qu'un bouton. Deux tout au plus, ce gros bouton A dans 75% des situations rencontrées, A et la gâchette B dans les restantes. Bien entendu, d'aucuns argueront que la Wiimote et le Nunchuck n'ont qu'un nombre fort risible de boutons en comparaison, mettons, des contrôleurs de la Xbox 360 ou de la PS3, et que le choix était tout trouvé. Je me pose en faux face à ces conceptions, puisque compte tenu de la particularité même de la manette, le pointage et le waggle ne sont aucunement mis à contribution. À nouveau, j'entends d'autres gorges chaudes qui voient ici l'argument selon lequel ces fonctions étaient inutiles dès le commencement. Balayons d'un revers de la main ces considérations démagogiques et revenons à notre propos. En réalité, ce qui m'aura le plus étonné concernant ce sujet, c'est que je n'ai su me détacher de l'idée que les concepteurs de Beat the Beat ont sciemment décidé, le long du développement, de limiter au combien ce gameplay. On aurait pu s'attendre, effectivement, qu'il faille à un moment donné retourner la manette pour se servir de la croix directionnelle ou, précisément, se servir des fonctions de pointage ou de secouement pour passer une épreuve, fût-elle bonus. Pour établir une comparaison avec non pas un jeu d'un genre proche, mais avec une série qui, elle aussi, a choisi de limiter on ne peut plus son gameplay, à savoir les WarioWare, constatons effectivement que ce dernier, s'ils partent du même postulat de base concernant leur jouabilité, c'est-à-dire une épuration systématique de celui-ci, a malgré tout tendance, dans ses phases de jeu les plus tardives, à complexifier ce mécanisme premier. Nous aurions presque là une structure en reflet. D'un côté, un jeu musical aux épreuves relativement longues, mais qui ne cède jamais à la complexité. De l'autre, un jeu de rythme, car la succession ininterrompue des épreuves peut faire penser, par endroits, à un rhythm game. Aux épreuves courtes, mais qui se complexifient au fur et à mesure du temps. Ce rapprochement particulier fait apparaître, de là, et à mon sens, la spécificité de Beat the Beat. Le choix conscient d'épurer au maximum ses commandes et de s'y tenir jusqu'à la fin de son parcours. Il ne faudrait cependant pas faire, comme je l'indiquais déjà dans mon numéro sur Braid, un raccourci hâtif, et croire que la simplicité équivaut à la facilité. La seule différence ici, entre ce jeu et la situation décrite alors, c'est que l'épuration du gameplay de Beat the Beat tend étrangement vers une incroyable complexité. Nous nous concentrerons cependant surtout sur cette épuration de contrôle que nous tâcherons de replacer dans l'histoire, non seulement du jeu vidéo, mais aussi de la Wii et de la politique de Nintendo à part entière. Aussi, nous poserons la problématique comme suit. Que signifie l'épuration du gameplay de Beat the Beat vis-à-vis de l'histoire du jeu vidéo?
Deuxième partie, une rapide histoire des contrôles du jeu vidéo.
J'ai déjà dû employer ici, à plus d'une reprise, l'expression « la carte et le territoire ». Il s'agit d'un concept opératoire fort vieux, à dire vrai, qui marque la distinction entre la réalité des choses et le modèle qui tente de le décrire. La complexité du concept vient, précisément, de l'idée que la carte n'est pas le territoire. Bien au contraire, elle se doit d'être plus simple que ce dernier pour faire ressurgir les pierres de touche, les modèles, les prototypes. Il est une nouvelle de Borges qui traite de ce sujet et qui le tire, comme souvent chez lui, jusqu'à l'absurde. Il imagine en effet une carte d'un pays à l'échelle 1-1, c'est-à-dire qui recouvrirait l'intégralité de cette nation. Mais à ce moment-là, la carte n'est pas exacte, car elle devrait se faire apparaître elle-même sur elle. Vous noterez l'incongruité de la situation. Ce préambule de là était un avertissement. Ce qui va suivre est une simplification à l'extrême, mais qui propose, je crois, une représentation relativement fidèle de l'histoire des contrôles du jeu vidéo. La question du contrôle, des manettes ou des sticks, est inhérente au jeu vidéo depuis sa création. Effectivement, l'une des caractéristiques les plus prégnantes du média demeure son interactivité, c'est-à-dire qu'un actant humain agit sur un environnement virtuel. Il y aurait là une part de transitivité, c'est-à-dire de transfert. Une action produit une réaction qui, alors, induit une récompense, ce schéma actantiel primaire étant la clé de voûte de l'ensemble du jeu vidéo. Cette interaction, de là, ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un outil qui peut prendre, et qui a pris, au fur et à mesure du temps, plusieurs formes, des boutons physiques jusqu'au contrôle plus avancé par le regard ou la voix, et, qui sait, peut-être demain, par les ondes cérébrales elles-mêmes. Notons cependant, et c'est aussi pour cela que le jeu vidéo est un média technologique en grande partie, et non intrinsèquement artistique selon moi, que c'est surtout le concept de la manette qui s'est imposé avec le temps, les autres outils n'étant pas encore assez rodés pour provoquer leur démocratisation, mais qui sait de quoi demain sera fait. Quoi qu'il en soit, l'histoire des contrôles du jeu vidéo est globalement celle de toute technologie, et l'on peut rapprocher son évolution de celle, mettons, des téléphones portables. Si, à l'origine, les manettes ne comportaient guère qu'un stick et un bouton, elles sont devenues au fur et à mesure plus complexes, multipliant le nombre de boutons, de joysticks, de croix, voire d'autres fonctions tactiles ou vibratoires. Les téléphones portables, à l'origine, ne pouvaient guère que composer un numéro, permettre de parler et de raccrocher, alors qu'ils sont devenus aujourd'hui des instruments polymorphes, se connectant à Internet, servant de plateforme de jeu, de moyen de paiement parfois, et leur fonction de téléphonique de devenir, à présent, non plus leur raison première, mais une fonction parmi les autres. Il est cependant une différence marquante, qui nous empêche de tisser la comparaison, les objectifs de ces outils. Un téléphone, qu'il date de 1990 ou de 2013, est un instrument dont le principe fondateur est demeuré inexorablement le même. Il se doit d'avoir, à minima, un combiné pour composer un numéro, un micro et un récepteur. Le reste, pour parler platement, ne serait que du gras destiné à embellir la chose. Pour le dire autrement, il ne sert jamais qu'à communiquer. Une manette de jeu, en revanche, doit être destinée à induire différents types d'actions. Bouger une raquette dans Pong, tirer et se déplacer dans Space Invaders, évoluer dans un labyrinthe pour Pac-Man, et ainsi de suite. Si le jeu vidéo avait connu une autre destinée, nul doute qu'à chaque jeu correspondrait une manette spécifique, ce qui est encore le cas pour certains titres comme Steel Battalion, et comme c'était, tout du moins en esprit, le cas notamment sur ColecoVision et Intellivision, où chaque jeu était livré avec un overlay destiné à échoir sur le pavé numérique et détaillant alors les commandes spécifiques de chaque jeu. En tant que média technologique cependant, c'est-à-dire intimement lié à la production de masse, il fallait bien tôt ou tard qu'il y ait une standardisation des contrôles. Celle-ci a touché en priorité les consoles de salon, du fait de leur grande distribution, mais également, au fur et à mesure, l'arcade, qui résista cependant très longtemps avant de s'arrêter sur une série de prototypes convenant à certains types de jeux en particulier, combat, plateforme ou beat'em all. Si je pouvais hasarder une hypothèse, je dirais ici que la création des genres de jeux vidéo et de leur typologie n'est pas primairement liée à leur nature même, mais bien que la création des prototypes industriels de contrôle de jeu a influencé durablement les dix genres. Quoi qu'il en soit, cette nécessité industrielle a alors invité les développeurs à se focaliser sur des modèles particuliers de manettes, et malgré leur énorme diversité, il est possible de distinguer trois âges primordiaux. Le premier âge, c'est celui de l'Atari 2600, c'est-à-dire que nous avons un seul bouton d'action et un contrôleur se chargeant des déplacements. Le deuxième âge, c'est celui de la NES, c'est-à-dire que nous avons deux boutons ou plus, qu'ils soient de façade ou flipper, et un contrôle directionnel ou plus, qu'il soit une croix ou un stick analogique. Le troisième âge, c'est celui de la Nintendo DS, c'est-à-dire que nous avons deux boutons ou plus, un contrôleur directionnel ou plus, et une autre façon de rentrer les contrôles qui ne passent pas par des boutons, que ce soit par l'intermédiaire d'un écran tactile, d'un système de pointage ou d'un secouement. Toutes les manettes de jeu peuvent se rattacher, selon moi et jusqu'à présent, à l'un de ces trois âges. Il faut noter, et c'est cela le plus intéressant ici, que ces âges ont accompagné le développement technologique des consoles et des jeux, et correspondent, grossièrement, à trois révolutions successives et technologiques qui ont façonné le jeu vidéo moderne. Au premier âge correspond son invention, au deuxième correspond la création d'une aventure et non pas d'une épreuve arcadienne répétée ad vitam aeternam sans progression. Au troisième, une ouverture où le jeu vidéo cherche à conquérir de nouveaux publics, notamment auprès des personnes âgées et des non-joueurs. Pour résumer, alors que jusqu'à présent, je ne considérais les jeux étudiés qu'en et pour eux, et tâchais de construire des réseaux de signes uniquement sous ce prisme, cette émission se doit de prendre en compte, cette fois-ci, la manette de jeu comme un signe à part entière.
Troisième partie, le gameplay réactionnaire.
Chacune de ces révolutions, et comme toutes les révolutions, a créé successivement deux mouvements antagonistes que l'on ne saurait réduire. La première a effectué une scission entre ceux qui désiraient jouer et ceux qui ne le voulaient pas. Encore aujourd'hui, l'on peut entendre mugir les rôlistes affrontant les joueurs, les premiers affichant leur supériorité sur les seconds. La seconde a divisé les joueurs entre les scoreurs et les aventureurs, ce qui aura débouché sur la création des techniciens du jeu vidéo et des amoureux du jeu vidéo. La troisième, enfin, a tracé une frontière qui aura fait couler beaucoup d'encre, celle entre les casual et les hardcore gamers. Comme dans toutes les révolutions, chacun est convaincu de son bon droit. Et comme dans toutes les révolutions, il est des réactionnaires et des révolutionnaires. Ainsi, les hardcore gamers s'estiment supérieurs aux casual gamers. Les scoreurs dédaignent ceux qui ne jouent que dans l'optique de voir le générique de fin sans en exploiter tous les mécanismes du jeu. Les rôlistes voient d'un mauvais œil ceux qui ne sachent pas utiliser la toute-puissance de leur imagination pour s'évader. Mais, et c'est là encore la marque des révolutions, il est des jeux et des joueurs qui tentent de concilier les tendances successives au moyen de titres seuil qui puissent permettre aux uns comme aux autres de trouver leur compte. Les rôlistes et les joueurs se retrouvent au devant de certains RPG qui permettent de façonner l'aventure comme on le désire. Les Skyrim, les Fallout, les Ultima. Les scoreurs et les aventureurs apprécieront, l'un et l'autre, les shoot'em up et les beat'em all où l'on peut à la fois avancer mais aussi chercher la meilleure méthode pour engranger des points. Les casual et les hardcore gamers finiront par apprécier les puzzle games et les jeux de rythme, faciles d'accès mais incroyablement difficiles à maîtriser. Cette zone mitoyenne, cependant, ne peut se faire qu'à coup de compromis. Chacun doit lâcher une partie de ses amours pour se rapprocher de l'autre. Dans le cadre des jeux de rythme, puisque c'est bien cela qui nous intéresse, ce compromis a pris la forme d'une simplicité de commande et d'une complexité d'application. Le gameplay de Beat the Beat est ainsi réactionnaire, dans la mesure où le jeu, sorti pendant le troisième âge, revient au tout premier et à un seul et unique bouton. Sa difficulté, en revanche, est révolutionnaire, dans la mesure où elle exige du joueur une grande concentration et une abnégation certaine qui empêchera la plupart des joueurs de le terminer. Le gameplay de WarioWare, pour reprendre ma comparaison, est en revanche révolutionnaire, dans la mesure où chaque itération va avancer dans les âges décrits plus haut. Le premier épisode ne se servira que d'un unique bouton, le second de l'écran tactile, le troisième des fonctions de pointage et de secouement de la Wiimote ou l'écran de la Wii U. Sa difficulté, cependant, est réactionnaire, dans la mesure où atteindre le générique de fin se fait relativement aisé pour les joueurs. Le même croisement sémiotique s'observera alors dans les challenges, ces épreuves annexes se débloquant au fur et à mesure de la progression, ou encore après le générique de fin. Ceux de WarioWare sont d'une difficulté révolutionnaire, car accélérant ad vitam aeternam et ne peuvent se conclure que par l'échec programmé du joueur. Les limites physiques du corps ne peuvent rivaliser avec l'infini machiavélisme de la machine. Ceux de Beat the Beat sont réactionnaires, dans la mesure où l'entraînement et la répétition, comme au solfège, permettent de vaincre tous les obstacles et même les épreuves infinies, pour un habitué, ressemblent à des marathons où ce sera l'ennui et la fatigue du joueur qui lui fera arrêter l'épreuve et non pas une malice quelconque de programmation. Beat the Beat est un jeu, globalement, hors de son temps. Et l'épuration de son gameplay est un acte éminemment politique, comme peuvent l'être globalement tous les rhythm games. Mais contrairement au Dance Dance Revolution ou autres Beatmania qui exigent des manettes spécifiques pour s'y adonner, contrairement aux Elite Beat Agents qui tirent pleinement parti du troisième âge des contrôleurs par l'intermédiaire de l'écran tactile, Beat the Beat se pose là, tel un éclair dans le brouillard. Il ne compose pas avec la technologie, il s'en écarte. Et c'est sur cette prise de position plus politique que sémiotique que j'aimerais à présent m'attarder.
Quatrième partie, le détail et le tout.
Le mouvement réactionnaire, contrairement à ce que l'on pourrait penser, que ce soit en politique, en art ou en culture de façon générale, ne consiste pas à revenir sur ses pas. C'est là, au contraire, la définition de la révolution. Une révolution prend l'image, il faut le comprendre, d'un retour sur soi. Ce n'est pas pour rien que le terme fut créé initialement pour décrire la course des astres, telle la révolution de la Terre autour du Soleil. Elle suit un parcours délimité, puis, celui-ci effectué, revient à son point de départ. Il y a certes eu des changements, l'été a suivi le printemps et précède l'automne, mais le cycle recommencera, quoi qu'il advienne. La réaction et le mouvement réactionnaire, il me semble que l'on peine aujourd'hui à relier les étymons tant les connotations négatives de ce dernier mot l'ont emporté, en général, prend l'image d'un mouvement opposé à la force des choses. Tandis qu'une force s'applique vers la gauche, le réactionnaire se tourne vers la droite. Et comme nous concevons la dimension temporelle comme une ligne inexorable, il est légitime d'assimiler la pensée réactionnaire à un retour vers le passé. Mais ce retour ne s'effectue pas à reculons, comme si l'on ne cessait de regarder le futur tout en rebroussant chemin. Au contraire, il s'agit d'un volte-face où l'on ignore ce qui va survenir pour se concentrer sur ce qui est déjà survenu. Cette différence infiniment politique et philosophique, ce me semble, est à même à expliquer le positionnement respectif et de Beat the Beat et de WarioWare. Tous deux partent d'un même constat. La complexité grandissante des manettes de jeu liée en partie, comme je l'ai dit, aux avancées technologiques a exigé un mouvement de refus destiné à épurer cette complexité pour en maintenir le suc, la substantifique moelle. WarioWare a choisi, pour cela, une voie révolutionnaire. Conscient de cette complexité, il a choisi de la réduire à sa simplicité primordiale et à exclure. Considérant les nombreuses commandes de la console où il voit le jour, Game Boy Advance, DS, Wii ou Wii U, il décide de n'en sélectionner qu'un et un seul, qui un bouton, qui le tactile, qui le waggle, et de faire fi des autres. Mais ce choix ne peut s'effectuer qu'en prenant en compte cette complexité réelle, qu'il choisit alors de mettre de côté. C'est le photographe qui, certes, fait le point sur une marguerite, mais n'oublie pas de laisser, même flou, la tour de Pise dans le décor. Le détail n'est pas pris en et pour lui-même, mais bien en opposition au tout. Et si la loupe grossit, elle fait ressortir par son absence tout ce qu'elle ne voit pas. L'on pourrait comparer ce principe, en faisant un parallèle avec la littérature, avec cette fameuse scène de la chartreuse de Parme de Stendhal, où Fabrice se retrouve perdu au milieu de la bataille de Waterloo. Tandis que Victor Hugo nous l'avait dépeinte dans toute sa stratégie complexe et militaire, Stendhal plonge au cœur des bottes et de la boue. Les choses passent et elles sont reconnues, mais l'on ne se concentrera que sur l'intime. Beat the Beat a choisi, le concernant, une voie réactionnaire. Il tourne le dos à la complexité, elle n'existe pas même à ses yeux. Pour lui, la manette de la Wii n'est jamais que celle du deuxième âge, et il voit, au loin, le premier âge l'attendant, et c'est encore vers lui qu'il tend. L'immense majorité des épreuves ne se joue qu'avec un et un seul bouton, et ce n'est qu'épisodiquement, mais ce n'est là qu'une étape et non une fin, qu'il faudra faire appel à la gâchette pour progresser. Ce n'est pas que ce jeu sélectionne sa simplicité, il ne la considère que comme la seule et unique possibilité le concernant. C'est la mouche qui tourne sur elle-même dans une immense salle et qui ne choisit pas d'aller voler ailleurs. Elle ne le fait pas, car son esprit l'empêche de concevoir l'immensité de l'espace qui s'offre à elle. On ne peut plus parler ici de détails, car nous manquons de points de comparaison, de pierres de touche. La simplicité est la totalité. C'est en cela, je pense, que Beat the Beat réussit là où d'autres, là où WarioWare même échoue à se renouveler. Ces dernières itérations nous l'auront prouvé. La voie révolutionnaire, tôt ou tard, finit toujours par se fissurer et par se fendre, par tomber sur elle-même. C'est notamment pour cela, et Camus dans L'Homme révolté avait vu juste, que la révolution d'octobre eut rapidement besoin d'un organisme de contrôle, ici en l'objet de la bureaucratie, pour éviter cet effondrement qui finira, malgré tout, par arriver. L'agir des esprits finit toujours par se lasser de se voir revenir au point de départ et de toujours chercher du neuf. La voie réactionnaire, en revanche, jouit d'une formidable stabilité et pour cause. Elle prend appui, non sur ce qui peut ou va survenir, mais bien sur ce qui est survenu. Il ne peut y avoir d'erreur, elles ont déjà été faites. Il ne peut y avoir de flou, tout est déjà tracé. Il ne lui faut aucun organe de contrôle. Le temps passé lui montre la voie. WarioWare cherche à se renouveler, non parce qu'il le veut, mais parce qu'il le doit. Beat the Beat reste fidèle à son concept, non parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut.
Cinquième partie, l'ancienne façon de jouer.
Je pense que l'on a, globalement, bien mal compris la politique de Nintendo lors des sorties respectives de la Wii et de la DS. Ils avaient appelé cela, avec raison par ailleurs, la nouvelle façon de jouer. Ils initiaient la révolution, ou tout du moins, la rendaient publique, alors qu'elle a pu être, avant eux, larvée, confidentielle, terroriste même par endroits. Après tout, le nom de code de la Wii n'était-il pas « révolution » ? Mais cette révolution n'était pas censée être ce qu'elle était. Elle se voulait, au contraire, une réaction. Que l'on fasse pivoter la manette de la Wii, l'on retrouve alors celle du deuxième âge des manettes, celle de la NES. Je pense que Nintendo, à un moment donné de sa réflexion, a désiré revenir sur ses pas. Et la Wii, en refusant certaines fonctionnalités alors présentes chez ses concurrents, l'avancée graphique, la connectivité permanente, le Media Center, de faire volte-face et de revenir vers les âges passés. Je pense qu'ils ont été pris quelque part à leur propre piège, et les éditeurs tiers de ne pas avoir saisi pleinement ce que Nintendo voulait faire de leur console. L'on sait que le constructeur, contrairement à Sony ou à Microsoft, ne cherche pas, n'a jamais cherché à faire une manette universelle, offrant assez de possibilités aux développeurs pour s'exprimer. Ils inventent leur jeu, puis conçoivent le contrôleur pour répondre à leurs attentes. Cette façon de procéder leur a permis, que ce soit pour la Super NES ou pour la N64, de garder la mainmise sur les productions des éditeurs en les amenant à s'inclure dans une sorte de moule qu'ils avaient eux-mêmes créé. Tout un chacun vous le dira, les jeux exclusifs aux consoles Nintendo ne peuvent se retrouver ailleurs. Non parce que l'on ne saurait les reproduire sur un autre système, mais bien parce qu'ils sont très étroitement liés à leur hardware. L'on a énormément parlé des royalties que le constructeur s'octroyait généreusement par le passé, mais cette raison économique comme bien souvent, était en lien avec une visée politique et philosophique que l'on pourrait réduire à l'établissement d'une identité. Seul Sega, dans une moindre mesure, aura suivi le même chemin avant de connaître le sort que l'on sait. Il n'est pas surprenant dès lors que les deux ennemis d'antan se rejoignent aujourd'hui car, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont jamais voulu que la même chose. La Wii et la DS, en revanche, et comme je l'ai dit, ont été pris à leur propre piège, en complétant cette simplicité première du deuxième âge des contrôleurs par une invitation au troisième âge, celui du tactile et du pointage. Ils ont avancé malgré eux. Peut-être voulaient-ils ménager la chèvre le chou, mais l'on sait bien que les jeux les plus hardcore de la Wii, tels Punch-Out, Wario Land Shake It ou Donkey Kong Country Returns, ne tirent nullement parti des caractéristiques totales de la manette, alors que les jeux les plus casual ne font guère que cela. C'est que les éditeurs, à présent débridés, non soumis à un moule quelconque, s'en donnaient à cœur joie, et en définitive, la console perdit de son identité. Elle embrassa la révolution et seuls quelques activistes, à raison ou à tort, prirent le chemin réactionnaire. À mes yeux, l'échec politique ou philosophique que représenta la Wii, et ce malgré tout l'amour que je puis lui porter, demeure Skyward Sword, qui a cherché à constamment délaisser la réaction pour embrasser la révolution. Et le résultat final, on le sait, ou du moins c'est un avis couramment partagé, est loin d'être convaincant. La Wii U, en revanche, me paraît être une console éminemment réactionnaire. Certes, l'on garde toujours la fonctionnalité de la Wiimote, et le tactile est toujours présent. Certes, la console, à présent, s'aligne sur ses concurrentes en proposant une connectivité totale, des profils utilisateurs, des connexions internet. Certes, mais à sa sortie, nul jeu comme F-Zero qui montrait l'intérêt des boutons flipper. Nul jeu comme Super Mario 64 qui montrait la nouveauté que représentait le stick analogique. Nul jeu comme Wii Sports qui introduisit la Wiimote au monde entier. Certes, me dira-t-on, Nintendo Land est censé nous présenter toutes les fonctionnalités de la mablette, mais il fut éclipsé, et par Nintendo lui-même à ce qu'il me semble, par Super Mario Bros. Wii U et Zombie U qui, s'il ne manquait pas d'inclure des instruments spécifiques à la console, reste cependant sur des chemins bien balaisés. La console, on l'entend partout, n'a pas une identité aussi forte que la Wii et le constructeur lui-même d'avouer l'échec qu'elle représente. Mais, à mon sens, ce n'est pas que la console n'a pas d'identité, au contraire, elle en possède une, et bien plus forte, étrangement, que la révolution forcée et hors de contrôle de la Wii. L'on peine cependant à la distinguer car elle ressemble, trait pour trait, à ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans, et elle serait alors, malgré elle peut-être, réactionnaire. Beat the Beat a initié un mouvement réactionnaire, et il n'est pas surprenant qu'il survienne à la fin de la vie de la console Wii. Il est le passant considérable, parmi d'autres, celui dont l'existence même fait tout basculer. Cause ou conséquence, la chose est difficile à dire. La concomitance est, dans tous les cas, certaine. Et l'épuration politique de son gameplay n'est jamais, selon moi, que le symbole même de ce constructeur qui, un temps, s'essaya, attiré par sa lumière, vers les chemins de la révolution.
You're the air. 強くて涙も T シャツも全部